et les midis reprennent le voyage. À 13h, je recevrai la romancière Sylvie Germain. Mais tout de suite, c'est Marie Sorbier, c'est le Point Culture.
Bonjour Marie et bonjour à tous. L'exposition Momie, qui se visite actuellement au Musée de l'Homme à Paris, permet de rencontrer des personnes qui ont été intentionnellement momifiées, que ce soit en Amérique du Sud, en Égypte, en France ou ailleurs. Alors que le corps est naturellement voué à disparaître, l'exposition invite à explorer les raisons qui ont poussé tant de cultures à opter pour l'une des pratiques les plus poussées en termes de préservation du corps. Mais qui dit corps humain dit question muséale, car exposer des restes humains est un sujet brûlant. Et c'est le dossier du Point Culture du jour. Héloïse Quettel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable des collections médicales Sorbonne Université et conservatrice, restauratrice spécialisée sur les restes humains. Et aussi, vous avez assuré le co-commissariat scientifique pour l'exposition Momie au Musée de l'Homme. Alors, une momie, c'est ce qu'on appelle un reste humain. L'exposé pose de nombreuses questions. Avant de parler d'éthique, peut-être un mot sur la conservation. D'où viennent ces momies et où sont-elles conservées ?
Alors en effet, on a ici au Muséum National d'Histoire Naturelle une assez grande collection de défunts momifiés. Au sein de cette collection, il y a notamment 63 corps complets et on retrouve toute la diversité géographique, chronologique que peuvent représenter ce type de collection. On fait vraiment tous les continents et de nombreuses époques, notamment à partir du moins deuxième siècle avant Jésus-Christ, finalement jusqu'au 19e siècle avec des préparations anatomiques de type écorché. Donc c'est assez vaste.
Oui, ce que vous dites là, c'est un des points importants de cette exposition, c'est-à-dire que dans les esprits, souvent, on associe la momie à l'Égypte, mais en fait, c'est un cliché, c'est faux.
Tout à fait, puisque finalement, à l'heure actuelle, les momies les plus anciennes que l'on a pu découvrir, ce sont les momies Chinchurros, qui viennent du Chili et qui datent de entre moins 7000 et moins 9000 ans avant Jésus-Christ. Donc beaucoup plus anciens que les momies égyptiennes.
Est-ce qu'on apprend encore aujourd'hui des choses ? Alors là, je m'adresse à vous en tant que scientifique. Sur ces momies, ou bien est-ce que scientifiquement, on a percé tous les secrets de ces corps momifiés ?
Eh bien non, évidemment, puisque finalement ces individus momifiés sont de véritables archives biologiques. Hein. Ils nous permettent encore aujourd'hui de trouver des informations sur la santé, les pratiques funéraires, l'alimentation, leurs déplacements aussi géographiques, mais parfois aussi des métiers et des gestes d'embaumement. Et l'intérêt majeur finalement des individus momifiés, c'est l'étude des tissus mous. Et ces tissus mous, par le biais d'analyses, qu'elles soient chimiques ou isotopiques par exemple, ça nous permet de savoir les derniers repas, ça nous permet de faire des datations carbone 14 aussi, plus fines, mais ça nous permet aussi de pouvoir observer des pratiques rituelles, qu'il s'agisse de tatouages ou de coupes de cheveux par exemple, et ça c'est vraiment très précieux encore aujourd'hui.
Donc ce sont toujours des objets d'études, il y a toujours des scientifiques qui étudient ces corps conservés.
Tout à fait, même si du coup, on n'utilisera plus le terme « objet », justement, puisqu'on on y reviendra. Hein. Mais éthiquement, on est aussi très vigilant sur la manière avec laquelle on dénomme ces individus qui sont bien des défunts momifiés et non pas des objets de musée.
Alors, c'est là où je voulais en venir, justement. Hein, nos regards contemporains sur les momies ont beaucoup changé, ça soulève de nombreuses questions. Comment décider qu'en 2026, il est possible d'exposer un corps humain dans un musée ?
Eh bien, finalement, en fait, c'est l'histoire d'un grand débat sur la question de la légitimité à exposer ou non des corps humains. Si on revient justement historiquement sur le fait que les momies, les premières momies dans les collections, ça remonte au cabinet de curiosité, il y a tout ce parcours justement avec l'arrivée dans ces musées au 19e siècle qui ont plutôt à ce moment-là un regard scientifique sur les défunts. Et il y a tout un travail sur... Finalement, qu'est-ce que c'est que le processus de patrimonialisation ? Ce que je veux dire par là, c'est que comment, à un moment donné, un corps humain qui arrive dans un musée devient un objet de musée, on y reviendra, et comment, justement, celui-ci devient protégé, en quelque sorte, par la législation, par la juridiction, et fait qu'ensuite, cet élément ne peut plus être sorti des collections aussi facilement. Alors, il y a plusieurs choses, déjà. Du côté juridique, le corps, il a un point de vue un statut particulier, normalement, il échappe à la propriété, au commerce, et il reste évidemment protégé par un principe de respect et de dignité qui lui survit bien après le décès. Ensuite, il y a eu historiquement des demandes de revendication, de restitution, qui ont amené justement la France, notamment, à se poser des questions. Comment est-ce qu'on peut continuer à considérer ces restes humains? Et donc, il y a eu une loi exceptionnelle, notamment pour la restitution de la dépouille de Saraji Bartman, la fameuse Vénus hottentote en 2002. Puis en 2010, une nouvelle loi, notamment pour acter le retour des têtes maories à la Nouvelle-Zélande. Et finalement, tout récemment, en 2025, une nouvelle proposition de loi pour encadrer au mieux la restitution des dépouilles, donc ici de Kalina de Guyane, notamment au Musée de l'Homme, qui a permis de déplacer en fait la discussion du point de vue international vers des relations entre la métropole et les territoires ultramarins. Et en fait, ces corps, aujourd'hui intégrés au musée, ils deviennent certes des biens, on dit, inaliénables, imprescriptibles. Cette loi a permis aussi de dire que les restitutions aujourd'hui sont possibles, c'est-à-dire qu'on ouvre finalement le dialogue avec les communautés d'origine de manière beaucoup plus simplifiée et légitime pour elles. Néanmoins, en France, on a calé une date, un critère temporel. Alors, jusqu'à 1500 ans, on peut faire une revendication familiale et restituer. Après 1500 ans, ils sont désormais considérés comme relevant du patrimoine ancien. Voilà.
Mais ces restes humains dont on parle, ils ont longtemps circulé dans des logiques coloniales. Est-ce que l'exposition, ou plus généralement dans votre travail, est-ce que vous faites attention à exposer cette histoire, à la raconter ?
Bien sûr. Alors, c'est intéressant justement parce que l'exposition Momie nous a permis justement de reconsidérer tous les aspects vis-à-vis de ce que c'est que de montrer. On a choisi plusieurs lignes rouges. Déjà, on a choisi d'exposer des corps complets, ce qui nous semblait beaucoup plus éthique et respectueux vis-à-vis de ces individus. On a également réalisé une grande campagne de recherche dans tous les fonds d'archives pour pouvoir retrouver justement et reconstituer d'une certaine manière ces histoires individuelles. Donc tout ceci nous a permis de pouvoir construire des fiches d'identité qui sont consultables face à chaque individu. Donc ça, c'est une différence majeure. On n'a plus un cartel comme pour un objet basique. On a bien une fiche d'identité qui nous permet de rencontrer un individu. On a aussi fait un travail scénographique important. Chacun de ces corps est présenté au sein de vitrines individuelles. Un voilage semi-transparent a été installé sur une des faces de la vitrine, toujours à l'endroit de l'arrivée du visiteur au sein de l'espace où se trouve la momie, ce qui lui permet aussi de choisir est-ce que je souhaite rencontrer cet individu ou finalement en faire le tour pour ne pas me retrouver face à cette personne. Je peux faire un choix. Et également, un dispositif d'accompagnement, donc à la fois un disclaimer dès l'entrée pour bien rappeler au public qu'il va partir à la rencontre de restes humains et d'individus momifiés, mais également une visite adaptée aux plus jeunes pour justement pouvoir les accompagner au mieux. Donc finalement aujourd'hui, tant du niveau de la scénographie que de la conservation, que de la médiation, on a essayé justement d'être au plus juste vis-à-vis de cette rencontre.
Bien, merci beaucoup Héloïse Quetel et je renvoie donc nos auditrices et nos auditeurs bien à l'exposition qu'on peut visiter, l'exposition Momie qu'on peut visiter jusqu'au 25 mai au Musée de l'Homme à Paris. Merci beaucoup pour toutes vos explications.
Merci.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, on a appris la mort hier de Catherine Samy.
Oui, la comédienne s'est éteinte à l'âge de 92 ans, entrée à la Comédie Française en 1956. Elle aura joué pendant un demi-siècle sur la scène du Français avant d'en devenir en 2007 sociétaire honoraire. Doyenne de la troupe à partir de 1989, Catherine Samy aura incarné plus de 70 rôles, parmi lesquels la môme crevette dans La Dame de chez Maxime de Georges Feydeau par Jean-Paul Roussillon ou encore Marceline dans Le mariage de Figaro de Beaumarchais par Antoine Vitez. Récompensée par un Molière d'honneur en 1998 pour l'ensemble de sa carrière, elle a joué aussi au cinéma dans une trentaine de films. Clément Hervieux-Léger, l'administrateur général de la Comédie Française, a salué cette personnalité hors norme, actrice exceptionnelle. Avec elle, c'est un peu de l'histoire de notre maison qui disparaît aujourd'hui.
Et pour finir, Marie, le débat autour de la taxation des œuvres d'art refait surface à l'Assemblée nationale.
Un amendement au projet de loi de finances 2026 porté par le député socialiste Philippe Brun propose d'intégrer à l'impôt sur la fortune immobilière tous les biens meubles corporels. Alors, une catégorie qui désigne les bijoux, les objets de collection, et les œuvres d'art. Cet amendement qui doit être débattu aujourd'hui dans l'hémicycle promet déjà de vifs débats tant cette question est clivante au sein même des partis politiques. Pour rappel, c'est la gauche qui avait exonéré les œuvres d'art de l'impôt sur la fortune en 1981. De leur côté, les professionnels rappellent que le marché de l'art ne se cantonne pas à quelques milliardaires achetant des œuvres pour spéculer et que les transactions d'œuvres sont ponctionnées par des taxes.
Merci Marie. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles.
À demain.
À demain.